Le Grand Matin Sud Radio Weekend. Le débat de la semaine.
Et 9h06 dans notre débat de la semaine, peut-on parler d'un gouvernement sous tension face à la rue qui semble gouverner ou pas? Le diviser pour mieux régner est-il une vieille tactique de l'ancien monde? Au contraire, toujours d'actualité. On en débat ce matin avec nos trois intervenants. Bonjour François-Olivier Gisbert.
Bonjour.
Éditorialiste, écrivain. Bonjour Vincent Cespedes.
Bonjour.
Philosophe essayiste et bonjour Corinne Tapiero qui est en direct en studio avec moi, comme à chaque
bonjour.
Fois. Bonjour. Conseillère d'arrondissement Les Républicains dans le 12e à Paris. Alors avant d'ouvrir le débat avec vous trois, qui est descendu dans la rue le 5 décembre?
Moi j'ai une excuse, j'avais une indigestion. Mais vraiment j'étais cloué au lit, voilà.
Vincent Cespedes, j'avais une indigestion.
Oui, complètement. J'étais cloué au lit, voilà. Ça. J'avais prévu de descendre, mais voilà. J'ai tout suivi comme un convalescent sur mon canapé avec la télé.
Je n'en crois pas un mot.
Ça commence bien.
Moi, je suis descendu.
Attendez, pas tous en même temps. François-Olivier Gisbert, j'imagine que vous n'êtes pas descendu dans la rue, du côté de Marseille.
Ouais, je descends toujours pour regarder quand même, ça m'intéresse. Ah, juste mon petit côté journaliste. Je suis écrivain, c'est gentil de le dire, mais je suis aussi un peu journaliste.
Un peu quand même. Corinne Tapiero.
Écoutez-moi, par la force des choses, puis j'habite sur le parcours de la manifestation, donc il y a des moments où on ne peut pas rester bloqué chez soi. J'ai été frappée par malgré tout la violence, quoi qu'on en ait dit. La concentration énorme de policiers, CRS et gendarmerie. Et je voudrais pousser un coup de gueule, parce que quand il y a eu les déprédations par les gilets jaunes dans les beaux quartiers, alors on en a fait des tonnes sur les dégradations des magasins. Et là, comme c'est à l'est de Paris, il y a quand même eu des dégradations. Il y a eu des vitrines qui ont été entièrement taguées, des feux de poubelle. Enfin, il y a quand même eu beaucoup de choses. Ce sont des petits commerçants qui ont beaucoup de mal à se relever de ce type de manifestation et qui sont très inquiets à l'idée que ça recommence mardi. Ouais.
Enfin, à part ces incidents-là, vu la masse et le nombre de gens qu'il y avait la rue, on a dit même dans l'ensemble que ça s'était relativement bien passé.
Oui, écoutez, quand on met le feu à des trucs, moi je trouve que ça s'est pas bien passé. Quand il y a des échauffourées avec la police, ça s'est pas bien passé. C'est pas le fait des manifestants, on est d'accord. Ouais. Mais à chaque fois qu'il y a un mouvement de foule aujourd'hui dans Paris, il y a quand même une difficulté. Alors on a mis en place des lois d'exception pour les gilets jaunes, mais qu'on les applique si on sait qui sont ces black blocs, qu'on aille les voir, qu'on les empêche de rentrer.
Bien noté, au-delà de ces actes de violence, est-ce que vous avez l'impression, les uns et les autres, que le diviser pour mieux régner, vieille tactique, là, franchement, ça ne marche pas. Alors, jusqu'à combien de temps, on ne saura pas. Ça dépendra aussi de la durée de la grève. Qu'en pensez-vous, François-Olivier Gisbert?
C'est-à-dire, quand vous répondez un peu à la question, en posant cette question, c'est que Macron s'est pris le pied dans le tapis. C'est-à-dire, c'est une espèce de faux débat avec dans un cadre un peu précis, comme ça, avec des gens qui disent des choses différentes. Oui, je pense que ça a contribué à provoquer de l'anxiété dans l'opinion. Et je pense que, disons, l'ampleur quand même de la manifestation, de la réaction, montre que tout ça a été très mal géré, parce que vous voyez bien, quand vous regardez les sondages d'opinion, ils sont passionnants. Et ce célèbre sondage d'Oxa, et puis tout ça est confirmé depuis par d'autres sondages, mais qui donnait 66% des Français qui pensaient qu'il fallait changer, arrêter, en tout cas mettre fin aux régimes spéciaux, ce qui est un aspect de la réforme d'ailleurs, mais bon, qui pensaient pour des histoires de justice, d'équité sociale, donc qui soutenaient le gouvernement, 66% qui soutenaient le mouvement, exactement le même chiffre, c'était absolument fascinant, et 65% qui pensaient que le gouvernement ne céderait pas, ce qui laissait à penser que le gouvernement avait déjà pratiquement gagné la partie. Mais je pense que en embrouillant en permanence, puis cette espèce de ping-pong entre les principaux dirigeants de la majorité sur cette affaire des retraites, effectivement, a fait que l'opinion s'est inquiétée.
Le diviser pour mieux régner, Vincent Cespedes, technique de l'ancien monde pratiquée par le gouvernement du nouveau monde, ça a ses limites?
Oui, alors ce sera une technique, je pense, éternelle, dès qu'il s'agit du pouvoir. Moi, ce que je vois, c'est que quand même la mobilisation était massive, plus de 800 000 personnes qui manifestent le 5. Donc on a affaire à quelque chose là qui se bloque, indépendamment des chapelles, des obédiences. Je crois vraiment que ce qui fédère, personnellement, c'est l'objet même des retraites solidaires qui risquent de devenir une sorte de système individualisé où tout le monde finalement risque de sortir perdant. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'éditorialistes qui racontent qu'à 63 ans, on n'est pas grabataire, on est toujours vaillant, etc. Mais ça passe pas dans l'opinion publique. Et ça, ça touche le rapport aux anciens, le rapport à nous qui allons vieillir, le rapport à la vie, le rapport au travail. C'est des choses très profondes. Les Français sont très attachés. Et peut-être que là, il y a peut-être un retissage de la solidarité possible à travers cette mobilisation.
Et plus d'un gouvernement s'ils sont cassés les dents. Hein. Oui. Je me souviens d'un autre discours d'ailleurs, une vieille phrase. Ce n'est pas la rue qui gouverne. Vous vous en souvenez, j'imagine, Corinne Tapiero.
Oui, je m'en souviens.
Raffarin, Premier ministre, Les Républicains. Les Républicains, famille aussi.
Juppé, sans doute grand initiateur de la pensée d'Édouard Philippe, avait initié une réforme des retraites. Mais en fait, qui n'était pas tellement attendu, puisque c'était une réforme de la sécurité sociale, et dans l'histoire, il a glissé la retraite, donc ce qui avait généré 3 semaines de grève.
La symbolique de la retraite.
C'est la symbolique de la retraite, d'abord parce qu'on dit beaucoup de choses fausses sur la retraite quand on dit que ça coûte à l'État. C'est un régime, dans la mesure où c'est un régime par répartition, c'est qu'il y a eu des cotisations à la base qui permettent d'abonder dans ces caisses. On s'aperçoit aujourd'hui que c'est une réforme dont on parle maintenant depuis le septembre, quasiment. C'est que ça fait 3 mois. On n'a pas vu une avancée. Je suis étonnée qu'un gouvernement qui se dise aussi volontariste, on n'en ait pas les prémices et qu'on aurait pu présenter un texte ou en tout cas les grandes pistes et de dire c'est la base de discussion, de la mettre sur la place publique. C'est bien de voir les partenaires sociaux, mais à un moment donné, on peut aussi la mettre sur la place publique, mais avec de véritables informations, pas avec des ballons d'essai. Un coup, il y en a un qui dit la retraite, ça concernera les gens nés en 63. 2 jours après, c'est 73, puis 75. Donc en réalité, on est en train de préparer aujourd'hui une réforme qui va être injuste, qui va être injuste évidemment pour tous les retraités, ceux du privé, qui va être aussi, parce qu'ils sont directement concernés, qui va être injuste pour les femmes en général. Mais surtout, elle n'aura rien d'universel, puisqu'on est déjà en train de nous préparer des exceptions à cette mise en place. Donc il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Alors après, laisser naître des affrontements entre le privé et le public, ça a toujours été, parce que ce qu'on voit poindre, c'est que bien évidemment, la force de blocage du public aujourd'hui, enfin du secteur public, fait que même si cette retraite se fait, elle va être compensée par d'autres avantages. Et ceux qui n'auront aucune compensation, ce sont ceux du privé. Donc il y a un moment, je pense qu'il ferait bien de revoir complètement leur copie avant de la présenter.
Et bah, de toute façon,
parce que ça peut durer. Moi, je prédis un maintien de cette tension jusqu'au moins
Noël. Et on reparlera tout à l'heure avec vous trois des stratégies de communication du gouvernement et bien sûr la déclaration attendue d'Édouard Philippe mercredi prochain. À tout de suite, il est 9h15.
Le Grand Matin Sud Radio Weekend. Le débat de la semaine.
Et c'est la suite. Nous sommes toujours en compagnie du journaliste écrivain François-Olivier Gisbert, du philosophe Vincent Cespedes et de la conseillère d'arrondissement Les Républicains dans le 12e à Paris, Corinne Tapiero. On parle des lendemains de grève et des stratégies de com du gouvernement. Alors forcément, on attend Édouard Philippe au tournant mercredi qui présentera le projet de réforme. Il a affirmé, je le cite, sa ferme volonté de mener la réforme mais sans brutalité. Comment, François-Olivier Gisbert, vous interprétez ces mots?
Il dit ça parce que les gens ressentent une brutalité. Oui. C'est vrai qu'il y a un ressenti. Il y a un ressenti qui ne correspond pas du tout à la réalité. C'est-à-dire que je crois qu'on se raconte des histoires. Bon, c'est vrai qu'il y a par exemple une réaction massive du Français, c'est sûr. Ça n'a rien à voir avec 1995. Les grandes manifs de 1995, quand on les a vécues, quand on a vu, il y avait infiniment moins de monde cette fois-ci. Et puis, même s'il y a beaucoup de monde...
Depuis, il y a eu le mouvement des Gilets jaunes aussi, au-delà des chiffres.
Oui, bien sûr. Et puis, il y a quelque chose de nouveau aussi, ça, c'est la violence. La violence, c'est quelque chose à quoi on n'était pas habitué dans les manifestations depuis très longtemps. Donc, on est dans un nouveau climat. Et donc, il y a évidemment une angoisse. Et face à cette angoisse, qu'est-ce qui fait le père Philippe? Eh ben, il arrive, comme pompier, quoi. C'est tout, parce qu'il y a des incendies un peu partout. Il essaie de calmer l'opinion. Mmh. Et je pense que ce qui est affreux pour lui aussi, c'est qu'il apparaît plus que jamais comme le fusible. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, qui adore la lumière et qui se met toujours en première ligne, là, bon, il a décidé de mettre son premier ministre parce que ça sent un peu le Roussi.
Bon, c'est pas la première fois que les premiers ministres servent leur fusible. Oui, ils acceptent.
Je trouve que là, il est quand même en retrait. et il est plus en retrait qu'on aurait pu l'imaginer. Et je pense que ça préjuge quand même d'une inquiétude aussi au sommet de l'État, c'est-à-dire que l'affaire a été très mal emmanchée.
Bah, de toute façon, les réactions, effectivement, et la communication du gouvernement quand même laissent à désirer. Je ne sais pas si vous avez regardé l'émission Vous avez la parole sur France 2, le jour même, le soir même, après la grande mobilisation, avec notamment Gérald Darmanin et Sibeth Ndiaye. On les sentait quand même, franchement, pas calés non plus sur cette réforme, hein, dont ils n'ont pas la charge, hein, d'ailleurs. Hein.
Mais c'est le grand problème de la Macronie, il n'y a personne. C'est-à-dire que je voyais l'autre jour à la télé un débat avec Jean-Michel Blanquer et Emmanuel Wargon. Bon, là, ça tenait tout à fait la route, mais je me disais, mais c'est ces gens-là qu'il faut montrer régulièrement, les faire parler, c'est qui rassure d'une certaine manière, même s'ils peuvent tenir parfois des propos qui peuvent inquiéter certaines parties de la population, mais ils rassurent, parce qu'ils sont clairs, parce qu'on sait ce qu'ils veulent. C'est vrai que de l'autre côté, on a l'impression, oui, d'une sorte de... Oui, c'est la cour du roi Péto, et chacun tire de son côté, dit un peu n'importe quoi, et je crois que c'est pas une bonne façon de gouverner.
Mauvaise erreur.
Ah, c'est peut-être le nouveau monde, ou le monde d'après, mais je pense que de ce point de vue, il y a le soin à prendre de l'ancien monde.
C'est ça. Corinne Tapiero, par rapport à la communication et les ripostes du gouvernement.
La problématique de ce gouvernement, hein, et du président de la République, c'est qu'il est entré en politique avec une idée, c'est que la politique, c'est de la communication. Or, moi, je crois que la politique, c'est le goût de dire les choses, mais c'est surtout la passion de les réaliser, en ayant l'assurance qu'on ne va pas droit dans le mur. Et là, on a une foultitude d'éléments dans son gouvernement qui sont, pour moi, atteints d'incontinence médiatique.
Incontinence
médiatique qu'on voit sur tous les plateaux ou qui tweetent à longueur de journée. Moi, je suis épatée qu'un ministre puisse produire une vingtaine de tweets dans une journée.
Enfin, c'est pas lui qui le fait forcément.
Non, on n'en sait rien, mais enfin, en tout cas, ça donne une drôle d'image de la fonction de ministre. On a vu Darmanin et Sibeth Ndiaye, dont ça n'est pas le job, d'accord, mais Sibeth Ndiaye est quand même porte-parole du gouvernement. Donc, on peut imaginer que les éléments de langage sont les bons. Cela dit, depuis sa prise de fonction, c'est pas la première fois qu'elle fait ce qu'on appelle des boulettes ou qu'elle se trompe complètement sur ce qu'elle présente, qui a dû être corrigé ensuite. On avait l'habitude des couacs avec Hollande. Là, je crois qu'on rentre dans cette grande ère. Mais c'est vrai, François-Olivier Gisbert a raison, il n'y a pas grand monde. Parce que là, il y a certaines personnes, La République En Marche, disent de toute façon, ça va tellement mal se passer, cette histoire des réformes de retraite, qu'Édouard Philippe va être débarqué et il va briguer la mairie de Paris pour semer... pour créer le rassemblement.
Le coup d'après.
Mais moi, je n'y crois pas, parce que qui pourrait-il mettre à sa place ? Pas Castaner, quand même.
Vincent Cespedes, vous qui observez beaucoup aussi les commentaires, la com sur Twitter, voilà, gouvernement, de la communication, de l'ex-futur ancien nouveau monde.
Selon moi, on n'est pas du tout en 95. S'il y a bien quelque chose de totalement nouveau aujourd'hui, c'est qu'on a une radicalisation. Et donc on a le camp des radicaux qui augmente avec beaucoup de ressentiment, à mon sens, justifié ce ressentiment, cette colère, parce qu'on a l'impression d'avoir un gouvernement qui n'écoute pas les citoyens les plus précaires. Et ça, c'est vraiment dans l'opinion très profonde. J'étais à La Réunion avec des 400 jeunes de 15-16 ans, et ils étaient complètement chamboulés par la phrase du préfet allemand qui dit « Nous ne sommes pas dans le même camp, madame ».
Oui.
Voilà, ils étaient chamboulés, parce qu'ils ont vécu aussi des manifestations à l'île de La Réunion. Et ils étaient chamboulés, ils disaient « C'est pas possible ». Et là, il y a quelque chose comme une sorte de pacte démocratique qui implose. On a l'impression que le gouvernement a peur des gens, a peur des citoyens, les plus modestes. Moi, je n'ai pas vu de dialogue, j'ai vu un faux grand débat où on avait une sorte de show de campagne sans le lien avec les citoyens, et ça c'est nouveau. Et du coup il y a une radicalisation, et cette radicalisation elle est très très compliquée. Il y a vraiment aujourd'hui des manifestants qui sont dans une logique du tout ou rien, avec un refus de tout leadership, avec très peu de... Là, il y a un combat aussi des syndicats qui veulent retrouver une forme de leadership par rapport à ces mouvements sociaux, donc ça pour moi c'est tout à fait nouveau. Je pense que c'est grave parce que, en fait, c'est l'idée vraiment d'une filia, on disait en grec, hein. La filia, c'est ce sentiment qu'on est citoyen dans le même pays et du coup qu'on s'aime. C'est un mot qui donne amour et qui donne le mot philosophie. Mmh. Et la filia, pour les Grecs, était vraiment un sentiment important, un sentiment politique. On fait partie du même pays, on est dans la même barque, donc on doit s'entendre ensemble par le dialogue. Et ben, je pense que la filia a été brisée par ce gouvernement. Et ça, c'est vraiment une catastrophe. Je ne sais pas où ça va mener, mais c'est sûr, c'est que la radicalité qui est là est le fruit d'un an de surdité politique.
J'entends le... de François-Olivier Gisbert, qui n'a pas l'air de partager votre vision.
Bah non, parce que c'est un philosophe, c'est un beau philosophe, Vincent Cespedes, mais là, il est en train de tourner, il se fait le poète, là, c'est de la poésie, et puis on est vraiment dans la pensée magique, c'est, tout ça est absolument n'importe quoi, parce que, bon, il nous parle de solidarité. Mais le problème, je ne veux pas défendre le gouvernement après ce que j'ai dit, on a bien compris les positions, mais le problème de la solidarité, moi, je crois qu'on ne peut pas accepter aujourd'hui, parce que c'est, en fait, ce mouvement, c'est un mouvement qui est tenu par les transports publics. Se sont agrégés quelques personnes dans le privé, les enseignants, mais vous verrez, ça ne durera pas longtemps. Mais enfin, c'est encore une grève des transports publics pour garder un certain nombre d'avantages.
Ouais, les professeurs étaient dans la rue.
Mais ils ont des avantages, je suis désolé. Non, mais je n'ai pas interrompu, je voudrais juste terminer là-dessus. S'ils ont des avantages, c'est aussi parce que c'est au détriment de catégories de la population dont, bien entendu, Vincent Cespedes ne parle pas, parce qu'on s'en fout de ces gens-là. Mais je pense qu'il y a, par exemple, une iniquité incroyable quand on pense que le conducteur de la RATP, de la SNCF, il va partir à la retraite à 52 ans avec un joli taux, et que le paysan, le pauvre ouvrier agricole, lui, va se retrouver à 75 ans avec quelques centaines d'euros de pension. C'est des systèmes qu'il faut revoir. Alors, le gouvernement, il a fait beaucoup de conneries, et je ne suis pas d'accord avec tout, mais au moins, quand on dit, voilà, un peu d'égalité dans ce pays, quand même, c'est pas juste, on ne doit pas donner à chaque fois tout à la CGT, Vincent Cespedes.
Non, l'égalité peut être à la
baisse. Mais il faut aussi se
L'égalité peut être à la hausse et pas à la baisse. Le problème, c'est que tout le monde est pour l'égalité.
Eh messieurs, on va donner le mot de la fin, parce que Primo Théophane, en plus elle est là en studio, il nous reste vraiment 20 secondes. Allez Corinne Tapiero, pour terminer, merci.
Écoutez, moi je crois que cette grève a montré que les syndicats étaient toujours très présents. Ouais. Ça a permis aussi de savoir qu'ils n'avaient pas de service d'ordre, contrairement à la légende longtemps répandue, mais qu'ils organisent leurs manifestations et que c'est pas du maintien de l'ordre qu'ils font, ils sont pas policiers. Ce qui est étonnant aussi, c'est qu'on arrive à maintenir sur le terrain des policiers dont on nous dit qu'ils sont exsangues et qu'ils ne sont pas payés en heures supplémentaires et qu'ils sont débordés, etc. Je pense que c'est pas une très bonne idée.
Et c'est un débat qu'on prolongera forcément. Avec ces lendemains de grève qui, à mon avis, ne vont pas se terminer tout de suite. Merci beaucoup François-Olivier Gisbert. Merci beaucoup Vincent Cespedes et merci beaucoup Corinne Tapiero. À très bientôt sur Sud Radio. Merci.